Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Henri Tinck, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète. Nous avons, dans une première émission, vu avec vous ce qu'il en était de Aaron Jean-Marie Lustiger, donc au moment de sa conversion, de son baptême. Et donc, je voudrais, dans cette deuxième partie, que nous prenions dans votre livre trois moments essentiels de cette croix qu'il a portée toute sa vie, à savoir effectivement cette double appartenance, qu'il ne vivait pas lui-même comme une double appartenance, mais qui était jugée par certains comme une double appartenance. Je cite donc Jean-Marie Lustiger, vous le citez, page 156, « Je suis né juif et je reste juif ». Et en 1981, donc, il est nommé par Jean-Paul II comme archevêque donc de Paris. Alors, je cite, pour que vous nous expliquiez un peu mieux comment les choses se sont faites à l'égard de la communauté juive, je cite donc une réaction en 1981, que vous citez dans votre livre, d'un ancien grand rabbin de Paris, Meyer Jaïs, qui dit, ouvrez les guillemets, « Au moment donc de l'élection de Jean-Marie Lustiger, un juif chrétien a autant de sens qu'un carré rond. La foi chrétienne et la foi d'Israël sont inconciliables. » Et Jacob Kaplan, donc, que vous avez indiqué effectivement qu'après la guerre, il était intervenu avec le père de Jean-Marie Lustiger pour que le baptême soit annulé, donc Jacob Kaplan, qui est devenu entre-temps grand rabbin de France, dit, vous le citez, page 162, « On ne peut pas être à la fois juif et chrétien, il faut choisir. » Alors comment est-ce que Jean-Marie Lustiger vit ces réactions fortes, vives, parfois qui font un peu peur, et on verra après un autre moment où effectivement, là aussi, de la violence est apparue. Comment est-ce qu'il a vécu cela et comment est-ce qu'on peut comprendre cette violence de réaction?
Alors c'est vrai que les réactions à son parcours et à la revendication publique qu'il a fait de rester juif tout en étant chrétien et évêque, les réactions ont été violentes, quoi. Mais il a vécu ça comme une espèce de contradiction, de signe de contradiction. Il s'est pris pour un signe de contradiction pour le monde et pour la communauté juive en particulier. Il n'a pas cherché à polémiquer avec les rabbins, surtout pas. Il n'est pas entré dans le débat de savoir si de se revendiquer comme juif et chrétien à la fois était légitime ou illégitime. Il n'est pas entré dans le débat avec les rabbins. Il n'a pas relevé le gant. Mais il a vécu ça pas dans la paix, bien sûr, mais dans la raison et avec le sentiment qu'il était pour la société, pour le monde, pour le christianisme et pour le judaïsme, un signe de contradiction. Un signe de contradiction qu'il devait dépasser par cette double appartenance. Il était convaincu que les temps sont mûrs pour une réconciliation entre judaïsme et christianisme, pour une réconciliation entre ces deux voies parallèles de salut. Il était convaincu que les temps étaient mûrs pour la fin de ce désaccord historique et théologique. Et il a vécu ça comme un témoignage donné au christianisme et au judaïsme, cette divergence, ce profond désaccord manifesté par les rabbins à l'occasion de sa nomination et surtout de la publicité qu'il avait lui-même donnée à sa revendication d'une double appartenance juive et chrétienne.
Alors, on peut retourner la question pour 1981. Quelle est la part qui a contribué? Enfin, quelle est la part de sa judaïté qui a contribué à ce que, et c'est le titre d'un de vos livres, un Ashkenaz devienne archevêque? Le titre de votre chapitre étant « Un Ashkenaz à l'archevêché ». Est-ce qu'il y a une part, quelque chose, qui a participé à cette nomination surprenante, contraire à ce que voulait François Marty lui-même, qui a été imposée par Jean-Paul II lui-même?
Alors là, la nomination appartient à Jean-Paul II.
Voilà.
C'est Jean-Paul II qui l'avait nommé d'abord à Orléans, à Orléans, où je rappelle qu'il a été baptisé, quoi. Hein. Un signe du destin, là encore une fois, c'est un destin extraordinaire, Jean-Marie Lustiger, vous l'aurez compris, il a été nommé évêque à l'endroit même où il s'était converti et baptisé. Donc le premier grand saut dans l'inconnu, c'était quand même cette nomination à Orléans en 1979. Et même pas deux ans après, Jean-Paul II, le même Jean-Paul II, le nomme à Paris. Alors, il va de soi que bien des considérations sont entrées en jeu dans le choix de Jean-Paul II. Il s'en est jamais expliqué, mais Jean-Marie Lustiger a toujours dit que le fait qu'il soit juif n'ait pas été indifférent au choix qu'a fait Jean-Paul II de le nommer à Paris. Jean-Paul II a eu un cheminement particulier aussi dans sa relation avec le judaïsme, né polonais, ayant vécu la Pologne de l'entre-deux-guerres, il n'a jamais participé, bien sûr, à l'antisémitisme dominant en Pologne de l'entre-deux-guerres, mais il a gardé des relations avec des juifs, et après la guerre, lorsqu'il était archevêque de Cracovie, il se rendait à la synagogue de la ville, et il avait de bonnes relations avec les juifs, et il s'était nourri des enseignements du Concile Vatican II, de la réconciliation qui s'est faite à cette époque-là avec le judaïsme, et nourri de toutes ces impressions d'évêques et de théologiens de Vatican II, Jean-Paul II n'a pas hésité à nommer un juif à la tête d'un diocèse comme celui de Paris, quoi, ce qui était un événement tout à fait extraordinaire.
Alors, deuxième moment...
Et il deviendra cardinal, ouais, et le seul cardinal juif du Sacré Collège, bien entendu.
Voilà.
Quoi.
Voilà.
Et rien ne l'empêchait de devenir pape. Le fait qu'il soit juif ne l'a jamais empêché de devenir pape. Quoi.
Alors, deuxième moment, là aussi, il faudrait que vous nous remettiez ça un peu en situation et qu'on comprenne mieux ce qui se passe. 1995, donc, il est cardinal, prince de l'Église, comme on dit. Sa conversion, son baptême, sa vie plaide pour lui, donc on n'est plus dans des circonstances d'origine. Bon. Et donc il est invité en 1995 à l'université de Tel Aviv, avril 1995. Et là, il y a une réaction que je vais vous lire, qui est quand même une violence folle, donc du grand rabbin Ashkenaz donc, d'Israël, Israël Meir Lo. Je vous lis, parce qu'il faut quand même que les choses soient dites. Donc, page 172 de votre livre, « Le dimanche 23 avril, jour de la fête de Pessah, dans son sermon à la grande synagogue de Jérusalem, le grand rabbin accuse l'hôte d'Israël, donc Jean-Marie Lustiger, cardinal, d'avoir, entre guillemets, trahi son peuple, la nation et la foi juive. Il se serait converti au christianisme pour échapper à la Shoah, deux points, ouvrez les guillemets, il a choisi l'époque la plus difficile pour déserter le front de défense de la continuité du peuple juif. » Fermez les guillemets. Le grand rabbin Lo n'a pas de mots assez violents pour dénoncer cette attitude. Toute conversion, deux points, ouvrez les guillemets, aboutit à l'extermination spirituelle du peuple juif. Elle conduit, au même titre que l'extermination physique, à la solution finale de la question juive. Fermez les guillemets, pour lui, ouvrez les guillemets, celui qui autrefois s'appelait Aaron représente l'esprit du mal, car il peut inciter d'autres juifs à se convertir, fermez les guillemets, et donc il n'est pas bienvenu en Israël. Alors comment comprendre ce propos qui n'est pas un propos ?
Ce sont des propos complètement déments, mais qu'il faut rattacher à un climat de violence verbale qui est assez souvent fréquent en Israël. Quoi, hein. Il faut le savoir. Quoi. Ceux qui connaissent bien la communauté juive, qui connaissent bien Israël, ne me démentiront pas. Alors les propos de trahison, les propos de extermination spirituelle du peuple juif sont tout à fait choquants. Et là aussi, Jean-Marie Lustiger a vécu cela dans le silence. Il n'a pas cherché à lever le scandale. Il s'est à peine expliqué sur cette attitude. Il est allé à Tel Aviv, il a tenu la conférence qu'il devait tenir sur le silence de Dieu pendant la Shoah. Et à son retour, et ça l'a beaucoup touché, une dizaine de membres de la communauté juive de France sont venus le voir. Sans dire pourquoi ils sont venus le voir, mais il a tout de suite compris que c'était lié à cette déclaration tonitruante et scandaleuse du grand rabbin Meir Lo. et ils l'ont réconforté. Et parmi ces juifs qui sont venus le voir, il y avait vraiment tous les plus grands noms de la communauté, grand rabbin Sirat, Adi Steg, Gérard Israël, tous les hommes qui étaient très attachés à lui, qui ont voulu manifester leur sympathie à Jean-Marie Lussiger, dont ils savaient très bien qu'il était blessé par les propos du rabbin Lowe, des propos dont il jugeait qu'ils sont complètement immérités, parce que Jean-Marie Lustiger non seulement était prêtre, évêque, cardinal, mais il avait déjà fait beaucoup pour le rapprochement entre les deux communautés. Et donc, ils ont estimé que c'était complètement maladroit de prendre à partie ainsi le cardinal Lustiger. Il avait déminé les tensions. Souvenez-vous, l'affaire des carmélites qui se sont installés dans le camp
de Auschwitz. Dans lequel vous revenez beaucoup.
Et Jean-Marie Lussiger a joué un rôle éminent et incontesté par personne, par la communauté juive comme par la communauté polonaise, pour faire en sorte que le Carmel soit déplacé et soit transféré en dehors du camp. Il a donc déminé des tensions, il a cherché à renouer les fils d'une histoire rompue. Il a souligné dans toutes ses interventions, dans toutes ses œuvres, ses livres, l'enracinement juif du christianisme. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs. Et il appelait les juifs et les chrétiens à une responsabilité commune pour le monde, quoi. Donc il avait déjà manifesté suffisamment de marques d'attention, de sympathie pour la communauté juive pour que le grand rabbin Lao d'Israël se dispense de ses propos haineux et scandaleux.
Donc vous voulez dire que la communauté juive de France, d'une part, a mis en évidence ou a marqué sa distance et sa réprobation de ces propos-là.
Exactement.
Voilà. Et donc effectivement, on peut dire, et vous le précisez dedans, que ces propos-là, qui ne sont pas des propos de quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui est quand même un des plus grands rabbins d'Israël, sont des propos isolés et qui ont été condamnés ou réprouvés, ou des distances ont été prises fortes de la communauté juive à l'égard de ce qui avait été dit.
Isolés, oui. En France, en tout cas, ils n'ont pas eu d'écho particulier. Et isolés aussi en Israël, parce qu'une partie de l'opinion israélienne, les libéraux, les politiques, se sont élevés contre ces propos incendiaires du grand rabbin Lao. Mais le paradoxe de l'histoire, il faut quand même le dire, c'est que le grand rabbin Lao et Jean-Marie Lustiger sont devenus les meilleurs amis du monde à la fin de la vie de Jean-Marie Lustiger. Il y a plein d'histoires extraordinaires autour de cet homme. À la fin de sa vie, Jean-Marie Lustiger est allé 5 ou 6 fois à New York rencontrer les milieux les plus ultra-orthodoxes de la communauté juive. Plus il avançait dans son cardinalat, dans son mandat à Paris, et plus il a consacré du temps à la communauté juive. Et il avait réuni à New York des rabbins du monde entier, dont le rabbin de Jérusalem, qui l'avait incendié, si je puis me permettre cette expression, en 1995. Et ils se sont réconciliés, là. Voilà comment se termine l'histoire, il faut quand même le préciser.
Parce qu'il y a une page qui est... Donc, votre livre se divise en 3. Et donc, la deuxième partie est consacrée, effectivement, à ce destin juif. C'est pour ça qu'on insiste dessus. À ce destin juif de Jean-Marie Lustiger.
C'est capital pour le comprendre.
Voilà. Et il y a une scène où vous dites qu'il a été invité dans une maison d'études à dialoguer, lui, cardinal, avec effectivement ces jeunes juifs qui passent leur journée à lire et à comprendre la Bible. Et donc, là aussi, ça a été un geste qui était révolutionnaire, d'une certaine façon.
Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, cardinal, réputé très proche de Jean-Paul II, estimé dans la communauté juive depuis la visite de Jean-Paul II à Jérusalem en l'an 2000, Jean-Marie Lustiger, donc, s'est mis à lire le Talmud, à commenter le Talmud avec un grand rabbin devant des étudiants de la Yeshiva, l'université juive de New York. Donc ça, c'est quand même complètement extraordinaire. Et il avait l'habitude de dire ce que j'ai fait comme cardinal en direction de la communauté juive, n'importe qui aurait pu le faire. Mais ce que j'ai fait comme cardinal et juif en même temps, il n'y a que moi qui pouvais le faire. Et c'est vrai qu'il est allé jusqu'à commenter le Talmud dans une yeshiva, ce qui pouvait être considéré comme provoquant par des milieux juifs ultra-orthodoxes est quand même passé normalement. Et ce qui pouvait être provoquant pour des catholiques traditionalistes est aussi passé convenablement. Mais il a fait ça à la fin de sa vie. La fin de sa vie où cette dimension de cardinal des juifs, de cardinal juif, a pris toute son ampleur. Il était convaincu que les chrétiens étaient destinataires de la promesse faite par Dieu au peuple d'Israël, pourvu que les chrétiens reconnaissent l'antériorité et la plénitude du fait religieux juif. Et il a été porté par cette conviction que les temps étaient mûrs pour un défacement du conflit historique et théologique, ce que j'ai dit tout à l'heure.
Il y a juste un moment, un point, donc à la fin de sa vie, il fait un ensemble de conférences auprès de religieuses, si je ne m'abuse, qui va devenir un livre. Qui
s'appelle... C'est au début de sa vie. Au début de sa vie, fait des conférences à des religieuses qui vont être consignées dans un livre, mais très longtemps après. Voilà. Très longtemps après, il se décidera à les publier.
La promesse.
Il s'appelle La promesse.
Voilà.
Oui.
Et alors donc, que dit-il dans ce livre-là, qui est un peu l'aboutissement de toute cette histoire du judaïsme de Jean-Marie Lustiger, cardinal catholique? Que dit-il, sinon, vous me dites si je me trompe, qu'il y a un pas qui doit être fait des deux côtés et que peut-être son idéal ou son horizon de pensée, c'est ce judéo-christianisme d'origine.
Exactement.
Des premiers siècles où la célébration chrétienne se faisait dans les synagogues.
Exactement.
Selon le rite juif. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur cette...
Il s'adresse à la fois aux juifs et aux chrétiens. Aux juifs, il dit qu'ils n'ont plus à avoir peur de l'Église. Elle a beaucoup progressé depuis le Concile Vatican II dans la compréhension du judaïsme.
Donc depuis, en particulier, Nostra Aetate.
Depuis la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, voilà, en 1965.
Donc il refuse,
Il n'y a plus de crainte à avoir, dit-il aux Juifs, dans ce qu'on a appelé dans l'histoire la théologie de la substitution. Substitution de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament. Substitution.
Le vrai Israël.
Le vrai Israël qui serait l'Église. Cette théologie de la substitution n'a plus de raison d'être, a dit Jean-Marie Lustiger aux Juifs. Il a voulu les rassurer.
Et donc, a dit Vatican II, surtout.
Les chrétiens reconnaissent que le peuple juif est le peuple élu par Dieu prioritairement, antérieurement à toutes les autres promesses. Voilà. Ça, il le dit très fermement aux Juifs et il a été largement compris, même s'il y a eu des réactions minoritaires un petit peu hostiles.
Et donc, du côté catholique
du côté catholique, il dit que tout est possible dans le dialogue avec les Juifs aujourd'hui. Il faut les reconnaître comme les frères aînés dans la foi chrétienne. Il dit que le christianisme a pris naissance dans le judaïsme, mais qu'ils sont aussi, eux, les chrétiens, destinataires de la promesse, même s'ils ne sont pas les premiers. Mais ils sont les destinataires de la promesse, si tant est qu'ils reconnaissent l'antériorité du fait religieux juif, et la plénitude surtout. Et ça, c'est très important de dire ça aux chrétiens pour qui... leur religion commence avec Jésus-Christ, quoi. Et tout ce qui s'est passé avant passe parfois par des couloirs étroits et par l'ignorance, quoi. Il a ce double discours vis-à-vis des chrétiens et des juifs qui nous ramène à la première époque du christianisme, à l'époque de l'église de Jérusalem, ce qu'on appelait l'église de Jérusalem, celle de l'apôtre Jacques, où cohabitaient à la fois les juifs convertis à la nouvelle religion chrétienne, qui cohabitaient avec les chrétiens venus du paganisme, venus du monde gréco-romain. Il y avait à cette époque-là une sorte d'unité du christianisme naissant dans le respect de la loi juive et dans le respect, dans l'accueil du Nouveau Testament et dans l'accueil de la promesse, promesse partagée. Et pour Jean-Marie Lustiger, cela correspond à une situation un petit peu idéale qu'il croit possible de retrouver aujourd'hui. Et il y a actuellement en Israël, existe toujours une toute petite église dite de la synagogue où on est chrétien, mais où on a gardé certains rites religieux juifs. Et Jean-Marie Lustiger avait beaucoup de respect et beaucoup d'amitié pour cette église dite de la synagogue.
Alors je voudrais qu'on termine sur le moment donc, de sa mort. Donc il meurt en août 2007. Et là, il souhaite qu'effectivement, au moment de sa mort, cette double identité, ou cette identité gémellaire, pour le dire peut-être de façon plus juste pour lui, soit réaffirmée ou affirmée. Je lis donc ce qu'il a fait graver sur un pilier de Notre-Dame, et que vous citez donc dans le chapitre 8 de votre livre, qui s'appelle « Le Fils des deux alliances ». Donc, je cite ce texte rédigé par Jean-Marie Lustiger. « Je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel Aaron. Devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour saint patron Aaron, le grand prêtre, saint Jean, l'apôtre, sainte Marie, pleine de grâce, nommé 139e archevêque de Paris par sa sainteté le pape Jean-Paul II. J'ai été intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981, puis j'ai exercé tout mon ministère, passant, priez pour moi, et c'est signé Aaron Jean-Marie, cardinal Lustiger, archevêque de Paris. » Alors comment est-ce que cette célébration, cette dernière célébration que certains ont vue à la télévision, s'est faite avec ces éléments donc de célébration juive au pied, à l'entrée donc de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Sur le parvis de Notre-Dame, le 10 août 2007, jour de ses obsèques, il y a eu une cérémonie proprement juive. Et toute la communauté juive était réunie, sa famille était là. Et on a récité ce qui était tout à fait extraordinaire sur le parvis de Notre-Dame, devant le corps d'un archevêque de Paris, on a récité la prière des morts juive, le Kaddish. On a récité un psaume en hébreu et puis on a déposé un peu de terre qui avait été choisie et qui avait été ramenée de la terre même d'Israël, quoi. Donc c'était une manière d'enraciner son judaïsme, et c'est Jean-Marie Lustiger qui avait préparé sa mort et qui avait préparé jusqu'au détail, parce qu'il était toujours minutieux dans tout ce qu'il exécutait. Il avait préparé jusqu'au détail ses obsèques et il avait tenu à ce que ses obsèques soient à la fois juives et chrétiennes, soient des obsèques, disons-le, judéo-chrétiennes. Alors bien sûr, lorsque ce rite juif s'est achevé, le corps est entré dans l'église et la cérémonie est devenue strictement catholique. Il n'y a pas de confusion des gens, il n'y a pas de syncrétisme, il n'a jamais voulu faire de syncrétisme, mais il a toujours dit, et qu'il le répétait encore quelque temps avant de mourir, « Je suis né juif, je meurs juif, je suis catholique de confession. » Mmh. Voilà ce qui le résume.
Je voudrais juste, vous avez dit, toute la communauté juive, vous citez dans votre livre, donc une réaction donc, de Josy Eisenberg, qui est producteur donc, de Sources Vives sur France 2, qui est rabbin. Et au moment de cette mort donc, de Jean-Marie Lustiger, je cite, ouvrez les guillemets, « Lustiger était un prince de l'Église, mais n'était plus juif. Et il considérait, lui, donc Josy Eisenberg, rabbin donc, que Jean-Marie Lustiger avait repris d'une manière cachée, un peu dissimulée, la théorie de la substitution. Alors, est-ce que cette réaction-là est symptomatique, marginale ? Est-ce que la communauté juive dont vous parlez était vraiment présente autour de Jean-Marie Lustiger ? Ou est-ce qu'il y a eu quand même quelques difficultés à trouver le rabbin suffisamment libéral pour accepter d'être là ?
Non, c'est une réaction, celle du rabbin Josy Eisenberg, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, une réaction marginale et isolée. Elle ne traduit pas la réaction de la communauté juive à la mort de Jean-Marie Lustiger, qui a été une réaction quasi unanime, quoi. On a salué le personnage. Mais on n'oublie pas non plus, et ce en quoi Josy Eisenberg a raison, on n'oublie pas non plus qu'il fut un signe de contradiction pour les deux communautés, mais le monde avance grâce à des signes de contradiction comme celui-là. Mais en tout cas, la réaction de Eisenberg est restée marginale, quoi. Et ce qu'il faut voir, au contraire, c'est la progression de la sympathie et de l'estime pendant tout son mandat à Paris, la progression de la sympathie et de l'estime de la communauté juive pour le personnage de Jean-Marie Lustiger, qui est le fruit de tout le travail de rapprochement, de réconciliation et de compréhension mutuelle qu'il avait accompli.
Est-ce que vous diriez, et ce sera notre dernier mot, est-ce que vous diriez que cette pensée théologique, donc on parlait de la promesse, ce souci de rester juif tout en étant catholique, les efforts, et vous les citez tous dans votre livre, Donc effectivement, le Carmel d'Auschwitz, les discours, les visites ô combien poignantes
Le repentir pour les actes de collaboration commis par l'épiscopat français pendant la guerre et la période de Vichy. C'est voilà. Jean-Marie Lustiger qui l'a inspiré aussi.
Est-ce que ça, à votre avis, c'est le, je ne dis pas la chose la plus importante, mais ce qui est quand même son héritage le plus fort et qui restera malgré ou à côté de tout le reste, parce qu'on n'aura pas
le reste. Je dis que c'est la chose la plus importante, et je dis que c'est l'essentiel, c'est vraiment le sel de son héritage, cette compréhension nouvelle des rapports entre judaïsme et christianisme, ce sentiment d'une double identité. Tout chrétien est porteur d'une identité juive, pour partie. Et cela montre que le chemin accompli qui remonte au Concile Vatican II, ce chemin, malgré toutes les embûches, malgré les relents d'antisémitisme, malgré une très marginale incompréhension qui demeure dans certains milieux traditionnalistes, malgré tout cela, le chemin parcouru entre judaïsme et christianisme aujourd'hui est irréversible. Et c'est quand même un progrès considérable pour ces deux religions, mais aussi pour le bien de l'humanité.
Et donc grâce en partie à Aaron, Jean-Marie Lustiger.
En partie grâce à lui, mais pour une grande partie grâce à lui, oui. Ce fut le témoignage de sa vie et c'est la trace qu'il laissera dans l'histoire.
Sans substitution, sans prosélytisme et sans réconciliation factice. Et vous avez bien mis en évidence au moment de son enterrement, donc, cérémonie juive à l'entrée et cérémonie catholique à l'intérieur de la cathédrale.
Il n'y a aucune volonté de récupération chez lui. Il y a au contraire le respect des démarches accomplies, mais il n'y a aucun prosélytisme, non, vraiment pas. C'est un cas tout à fait unique dans l'histoire, et l'histoire ne dit pas qu'il aurait pu devenir pape, mais il aurait pu devenir. Il était le seul cardinal juif du Sacré Collège des Cardinaux, et on devine le retentissement qu'aurait eu dans le monde la nomination d'un cardinal juif comme pape. Ce serait la première fois depuis Saint-Pierre qu'on aurait un homme juif à la tête de l'Église catholique.
Et de plus, il n'était pas beaucoup plus vieux que Joseph Ratzinger.
Joseph Ratzinger, oui, parce qu'il ne croyait pas en son élection, parce qu'il se croyait trop vieux, le pontificat de Jean-Paul II durant. Il croyait qu'il devenait trop vieux. Mais en fait, non, puisque Joseph Ratzinger est son aîné de 2 ans, et il a été élu.
Donc Henri Tinck, merci beaucoup. Donc, je renvoie nos éditeurs à votre livre. Donc Henri Tinck, Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète. Bien d'autres aspects sont évoqués, ses réformes à Paris, les changements qu'il a pu opérer, etc., etc. Donc tout cela, vous l'évoquez, mais il m'a semblé, effectivement, pour rejoindre ce que vous dites, que cet aspect-là des choses est ce qu'il y a à la fois de plus crucifiant en lui, de plus prophétique, de plus essentiel, et qui a toujours été au cœur de sa foi, à la fois prophétique et à la fois marquée par cette tragédie personnelle et dans sa propre famille qu'il a pu connaître. Henri Tinck, merci.
Merci.